Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 16 octobre 2019. En l'espace de 24 heures, nous sommes passés de gros doutes sur le trade deal à les chiffres sont trop bons, l'économie va trop bien, le tout avec trois publications qui se courent après. Ce n'est pas la première fois que je le dis dans cette chronique, nous ne sommes même plus capables de gérer deux sujets à la fois, alors ça ne me dérange pas que le marché monte, bien au contraire, mais entendre des déclarations comme « les bons résultats publiés hier ont donné envie aux investisseurs de revenir sur les marchés financiers », ça me donne envie de me rouler par terre de rire. Pas que la déclaration soit fausse, c'est sûrement vrai, sauf que quand on voit les théories que l'on nous tient sur le trade deal et ses développements pendant tout le week-end et le début de la semaine, c'est tout simplement hilarant de voir à la vitesse où notre déficit d'attention prend dessus et nous pousse à revenir sur les chiffres du trimestre, parce que soudainement, c'est ça la vraie vie. Alors, parlons des chiffres du trimestre, puisque tout le monde se fout du reste, soudainement, et que le trade deal, les taux, la récession et les angoisses de crash sont passés au second plan pendant les dernières 24 heures. Hier, les banques ont donc commencé à publier, et c'était globalement mieux que les attentes. À ce stade-là, je ne veux pas dire du mal, mais globalement, les résultats des banques sont systématiquement impossibles à interpréter. Il faut quand même bien comprendre que ce sont des analystes financiers qui bossent dans des banques, justement, et qui sont à chaque fois à côté de la plaque. Déjà que l'analyse fondamentale est à peu près aussi efficace que de le jouer aux fléchettes, mais en plus, dans le secteur bancaire, on a souvent l'impression que les gars ont analysé les bilans d'une autre boîte pour être pareillement à côté des chiffres. Enfin, peu importe. Comme ça, on sait d'où vient le proverbe « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Donc hier, JP Morgan a fait mieux que les attentes, résultat 3% de hausse. Citigroup a fait mieux que les attentes, résultat 1,4% de hausse. Par contre, Goldman Sachs et Wells Fargo ont fait moins bien que les attentes, mais les deux titres montaient quand même parce que, tu comprends, c'est pas pareil. Non, désolé, je comprends que dalle. En gros, on a eu des chiffres qui étaient moins pires que ce que l'on craignait, et cela nous a effacé la mémoire. Il ne reste plus qu'à que Netflix fasse mieux qu'attendu ce soir, et elle va prendre environ 30%. Oui, parce que si les banques ont offert une belle surprise à la hausse, on voit que l'on s'attend tellement à des chiffres de merde pour ce trimestre que les bonnes surprises déclenchent des fortes hausses. Tenez, prenez United Healthcare. C'est pas la boîte la plus sexy du marché, c'est pas la plus connue. En effet, ils fabriquent pas de téléphone portable, ils sont pas un réseau social, ils font pas dans le taxi bon marché et ne sont pas une licorne. Mais hier, la société a battu les attentes, le titre a pris 8%. Trop de négativisme tue le négativisme. C'est ainsi que l'on peut résumer la séance d'hier. En tous les cas, entre les Américains qui oublient tout le reste et qui ne vivent soudainement plus que pour les chiffres du trimestre, et les Européens qui sont surexcités dans l'espoir de voir le Brexit se terminer une fois pour toutes, on a eu une de ces journées de fou qui nous emmenait plus très loin des plus hauts historiques. Le S&P 500 frôle les 3000 à nouveau. En Europe, le DAX termine à 0,2 points des plus hauts de l'année. En France, le CAC 40 casse les 5700 pour terminer justement au plus haut de l'année. Qui l'eût cru il y a encore deux semaines. Il y a deux semaines, nous étions en pleine dépression sur le trade deal. On ne parlait que du Brexit qui ne se ferait pas, de l'économie qui ralentissait, de Trump qui allait se faire virer et de la récession qui était à nos portes. Et en l'espace de 15 jours, on a tout oublié. On trouve juste les chiffres du trimestre fantastiques, bien que 5 boîtes sur 500 aient publié à ce jour. La bonne nouvelle du jour, c'est le SOX qui termine au plus haut de tous les temps. Alors, le SOX, c'est le Philadelphia Semiconductor Index. Ces composants sont des boîtes qui fabriquent les trucs qu'on met dans les smartphones pour pouvoir jouer ensuite à Candy Crush. Et surtout, c'est un indice qui a la particularité d'être utilisé comme un indicateur avancé. En gros, quand le SOX monte, ça veut dire que le reste va suivre. Donc si on se base sur cette théorie, le S&P 500 devrait battre les records, des records d'altitude d'ici la fin du mois. C'est ballot. Encore un mois d'octobre qui aurait dû être tout pourri et qui va s'en sortir. Ce matin, l'Asie semble dubitative quant à la journée d'hier. Le Nikkei continue de monter de 1,2%, mais les deux autres ne font strictement rien. Cela vient peut-être du fait que le Parlement de Hong Kong vient d'être évacué parce que c'est tout simplement le bordel et que tout ça va mal finir. Pendant ce temps, l'or s'enfonce dangereusement en direction des supports qu'il ferait mieux de ne pas casser. Le pétrole est de retour à 53, mais pour être franc, depuis que l'on s'intéresse à la microéconomie, c'est-à-dire depuis 24 heures, plus rien d'autre n'a d'importance. Comme tous les jours depuis 5 ans, le FT nous colle les dernières nouvelles du Brexit en première page. Cette fois, il paraît que les négociations sont bloquées. C'est la troisième fois en deux jours qu'on nous fait le coup. Et à la fin, ça se débloque. Donc on va dire qu'on verra en fin de semaine. Autrement, les démocrates se tirent dans les pattes pour rester polis pour savoir qui affrontera Trump en finale. Et pendant ce temps, on nous publie des sondages
sondages mélangés à des statistiques qui démontreraient que si l'élection avait lieu demain, Trump ne gagnerait pas, il pulvériserait son adversaire tout simplement. Le patron de Goldman Sachs, David Solomon, demande du temps à ses actionnaires pour redresser la franchise. En même temps, ils n'ont pas trop le choix. Il faut juste espérer que la banque ait encore un business rentable. Et puis Mike Pence, le vice-président américain, refuse et refusera de témoigner dans l'Ukraine Gate. Mais bon, pour être franc, on s'en fout. Le seul truc qui compte, c'est les chiffres du trimestre. C'est ça, des vraies choses importantes. Encore un truc qui n'est pas dans les news, alors je vais en parler. Vous vous souvenez de l'inversion de la courbe des rendements ? Vous vous souvenez que le rendement du 10 ans US était plus bas que celui du 3 mois ? Que ce signe ignominieux était le signal d'une baisse annoncée, d'une récession annoncée, et qu'à la fin, on allait tous mourir ? Vous vous souvenez de ça ? Eh bien, depuis quelques jours, il n'y a plus. Plus d'inversion, tout est rentré dans l'ordre, mais personne n'en parle parce que ça n'importe rien. Et surtout, c'est plus marrant quand il y a la perspective de voir du sang sur les murs, ou mieux, un crash annoncé. Puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse, on va donc attaquer avec les chiffres du jour. Aujourd'hui, nous aurons ASML, Abbott, Bank of America, Domino's Pizza, IBM, Roche et US Bank Corp. Alors, et puis Netflix ce soir après la clôture. Attention aux bonnes surprises, ça pourrait être sanglant. En ce qui concerne les chiffres économiques, ça sera CPI et Trade Balance en Europe, CPI et PPI en Angleterre, puis les Business Inventories aux USA ainsi que les inventaires pétroliers et le Badge Book. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,25% et ça continue de chauffer à Hong Kong. La Chine vient d'annoncer que les USA feraient mieux de pas s'en mêler. Mais nous, on s'en fout depuis qu'on l'a fait de la microéconomie. Tout va mieux. Passez une très belle journée.